Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission Sortir du capitalisme, avec nos invités, les géminologues, pour parler de la révolution espagnole de 1936-1937, notamment en Aragon et en Catalogne, bon, de manière générale, de tout le contexte historique de cette révolution. Et donc du coup, on a un petit peu fini pour ce qui est d'avant 1936, mais du coup, tu voulais, Myrtille, quand même préciser un petit peu les dernières élaborations théoriques qui vont, celles juste avant le congrès de Saragosse de mai 1936, qui vont préciser un petit peu dans quel état d'esprit idéologique, disons, rentre la CNT.
D'une part, la CNT se retrouve assez mal en point parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de répression, beaucoup de militants sont emprisonnés, elle n'a plus beaucoup de rentrées des affiliés, donc elle est un peu exsangue au niveau concret, pratique. Mais au niveau du débat idéologique, ça bat son plein. Donc, Santillan défend ses positions dans toute la presse libertaire, dans toutes les revues, tous les journaux. Et il publie un bouquin qui s'appelle « L'organisme économique de la Révolution », dans lequel dira Frank Mintz, il va poser les jalons de ce qui va servir après 36 de justification au circonstancialisme du mouvement de la CNT-FAI, la position qu'elle va adopter par rapport au gouvernement, au maintien de l'État, etc., etc. Donc lui, il a déjà repéré que cette position que va adopter le mouvement libertaire, anarcho-syndicaliste, et qui sera tellement, comme on le sait, très débattue, est pensée et conçue avant. Ce n'est pas les circonstances qui vont faire cette position. C'est autre chose, c'est une évolution doctrinaire et de tactique, de stratégie. Donc le livre de Santillan va être diffusé et beaucoup lu. Et d'un autre côté, Isaac Puente, aussi un militant extrêmement connu en Espagne, dans le mouvement libertaire, va publier sa brochure, enfin son petit livre sur le communisme libertaire. Et qui va détailler vraiment très précisément. Et là, c'est un bouquin qui va être extrêmement lu, diffusé, discuté, réédité maintes fois. Voilà, ce sont dans des ouvrages qui circulent. Le débat bat son plein. Et la position de Puente, c'est de combiner ce qu'on a appelé les deux attitudes face à la société post-capitaliste. L'une centrée sur l'individu, la commune, et l'autre centré sur le syndicat, la fédération d'industrie. Donc lui, il va combiner le communisme libertaire, une option du communisme libertaire qui combine toutes ces options-là, essayer de rassembler tout le monde. Donc en gros, pour aller très vite, ses points forts de son programme communisme libertaire, c'est l'abolition de l'argent en tant que signe de richesse cumulable et en utilisant des usages de bons de consommation, mais qui resteront provisoires. Hein. Il dit qu'il faudra trouver une meilleure solution. Il faudra abolir la propriété privée, l'autorité, toute la souveraineté reviendra aux assemblées générales. Le travail est obligatoire pour tous les membres, mais le salariat est complètement aboli. La distribution est organisée par la collectivité. Les échanges de produits nécessaires entre localités se feront sans équivalence de valeur, car ils sont tous équivalents en soi, quel que soit le travail qu'ils ont demandé ou l'utilité qu'ils représentent. Donc on retrouve là le vieux fondamental des anarcho-syndicalistes, des anarcho-communistes, excuse-moi, les ancêtres du communisme libertaire, ceux qui avaient proposé qu'on ne quantifie plus le temps de travail des hommes. Donc lui, il reprend bien, on voit le fil qui continue par là. Et la notion de valeur, il conclut sur la notion de valeur est étrangère à l'économie libertaire, il n'y a donc aucune raison de la mesurer avec de la monnaie. Voilà, donc une grande partie de la base militante et enthousiaste, on a un programme communiste libertaire là qui est discuté, et d'autant plus au congrès de mai 36, donc tous les représentants des régions, des fédérations, etc., de la CNT, de tout le mouvement libertaire, envoient leurs délégués à ce congrès. Ça va être un super congrès à Saragosse, très chaud, très discuté. Et à la surprise des gens comme Santillan ou d'autres, c'est la motion sur le communisme libertaire qui va être votée, remporter des suffrages face à sa motion à lui et à quantité d'autres motions. Et là, sa motion à lui renfermait son autre programme à lui qui n'était pas du tout, qui proposait lui l'abandon du communisme libertaire. Donc on se retrouve avec un congrès qui donne et dont on a historiquement encore la résonance, c'est le mouvement libertaire est uni, fort, et proclame son désir de pratiquer le communisme libertaire dès que les conditions le permettront. Or, ça ne rend pas compte du débat, des dissensions internes profondes qu'il y avait à jour. Donc, quelqu'un comme Santillane, il pèse, il rage tout ce qu'il sait entre les semaines qui suivent mai 36 et avant juillet 36. Il dit dans un texte, le communisme libertaire est une vieille doctrine qui voit sa définition historiquement figée, à l'instar du collectivisme, du mutualisme, de l'individualisme. Il n'y a pas besoin de le définir, il ne méritait que quelques lignes. Pour lui, on est en train de se perdre dans les vieilleries. Ça, tout ça, comme il dit, ça, c'est bon pour la poubelle de l'histoire, on doit passer à autre chose. Donc là, il n'est pas content du tout. Donc, deux mois avant le soulèvement révolutionnaire, on allait dans cette situation-là. On a des positions qui sont encore en débat, et la situation après va obliger tout le monde à commencer à pratiquer quelque chose. Donc on arrive à juillet 36, c'est ce qui va se passer à la fois en ville à Barcelone et à la fois en Aragon.
Ouais, donc alors pendant cet intermède, il y a aussi le phénomène du Front populaire, effectivement, la CNT, enfin les anarchistes ont été tellement réprimés par le gouvernement de droite que disons que ils sabotent moins, disons, les élections.
Ils donnent pas de consigne de vote.
Ils donnent pas de consigne de vote, quoi, en février 1936. Et certains historiens considèrent que c'est notamment par cette absence de consigne que le Front populaire s'en sort vachement mieux.
Il y en a qui votent pour le Front populaire.
Voilà, c'est ça. Il y en a qui votent pour le Front populaire. Il y a aussi le changement de la tactique stalinienne, la tactique stalinienne du Front populaire. Bon. Et du coup, on arrive, ce qui précipite, on va dire, les forces réactionnaires, là, pour le coup, à vraiment couper court à la République, qui ne les arrange plus du tout. Et donc, du coup, c'est le soulèvement de la mi-juillet,
18 juillet,
le 18 juillet 1936 au Maroc, avec Franco qui est là-bas, qui dirige...
Franco et un tas d'autres généraux. Lui, il n'était pas spécialement en tête de tout ça. Hein. Il était parmi les multiples généraux qui organisent ce soulèvement.
D'ailleurs, le numéro 1, c'était Sandrujo aussi.
Non, c'était Mola.
C'était Mola, voilà, c'est ça. Emilio mais qui Mola. Meurt mystérieusement.
Mourir dans un accident d'avion. Ouais.
Dans un accident d'avion.
Oui, mais il y a deux concurrents qui meurent par accident. Là.
Ouais, ça tombe bien.
Il n'y a jamais eu de preuve qu'il y a eu une.
Non, mais ça tombe. Ça s'est bien goupillé. Bon,
ça a profité à Franco. Ça, c'est sûr ça. Que Franco, dès octobre 1936, devient le chef incontesté effectivement, du camp anti-républicain.
Ouais. Et puis il dispose aussi, a priori, des meilleures troupes qui sont. De bonnes troupes.
Toujours difficile à déterminer. Non. Au départ, c'est pas évident en fait.
Ouais, morts,
il y a beaucoup d'officiers.
Ouais. Ah oui, il y a beaucoup d'officiers.
Mais la troupe, elle est
morts,
plus. Il y a plus de. Y a,
ah oui, Mola, il a plus de troupes dans le nord, c'est ça
Non, il est obligé de. D'abord, tout de suite, il a recours aux Allemands, aux nazis allemands qui lui proposent immédiatement un pont aérien pour passer du Maroc en Andalousie. Mais tout de suite, hein, les Allemands s'investissent et les Italiens assez vite aussi s'investissent pour l'aider. Et lui fait appel au Tercio et aux Marocains, aux Regulares, c'est-à-dire aux soldats, au Tercio, c'est-à-dire l'armée coloniale. Quoi, hein, il a besoin de ces. En plus, lui, il n'a pas confiance dans la troupe espagnole. Tout simplement. Il sait très bien que la plupart, ils vont foutre le camp de l'autre côté dès qu'ils pourront, qu'ils ne vont pas être hardis à les tirer sur les ouvriers, etc. Donc, il ne met pas en avant la troupe de soldats espagnols. Il met les Navarrais, morts, ouais. Il met les Requetes, il met les Marocains. Ouais. Ça, c'est sa troupe avancée, c'est cela, et qui avance de manière très cruelle, très implacable, comme on le sait, et pour provoquer déjà une terreur. Sa politique, c'est de terroriser. Hein,
c'est les massacres de Badajoz, ça commence déjà avec
toute
ça.
La route depuis l'Andalousie jusqu'à Badajoz, Burgos, est jalonnée d'assassinats de masse des ouvriers, en tant qu'ouvriers. Qui prennent les armes ou pas. Ils ont les listes de tous les syndicalistes, de tous les maires républicains, de tout le personnel, des instituteurs. Ils ont leur liste de gens à abattre. Il n'y a pas à discuter. Ils les abattent.
Ils liquident tout le monde. Ouais. Et du coup, Ils avancent assez rapidement vers Madrid dans les premiers mois de la guerre civile, mais il y a surtout... Et du coup, bon, ce qui fait que le front va stabiliser vers fin 36 avec l'Espagne républicaine qui, en gros, comprend le Pays Basque, les Asturies au nord de l'Espagne, la Catalogne, l'Aragon. Alors, pas toute l'Aragon, du coup, parce qu'il y a le front de Saragosse.
La moitié de l'Aragon.
La moitié de l'Aragon.
Le Levant,
de Valence.
Voilà, la région
Castille,
de Valence.
Et une partie d'Andalousie.
Une petite partie de l'Andalousie. Et du coup, on a parlé un petit peu de l'avancée fasciste, mais de manière plus importante, il y a aussi le fait que, effectivement, Barcelone n'est pas prise. Est-ce que tu peux.
Ouais, parce qu'il faut pas oublier qu'au congrès de Saragosse, il y a eu la motion sur le Congrès libertaire, et puis il y a eu une analyse de la situation, une vision très claire de la situation, et la CNT qui dit bien, ces gens-là, ils vont tenter un coup de force, on le sait très bien, et García Oliver avait beaucoup développé à ce moment-là, il faut que chaque grande ville, Séville, Saragosse, Barcelone, etc., s'organise en rapport avec ça. C'est-à-dire accumuler des armes, s'organiser, avoir une tactique vis-à-vis. Ils avaient un service de renseignement déjà à peu près assez élaboré, hein, les ANARA. Hein. Donc ils savaient très bien que c'était une affaire de semaine, hein, que le coup d'État allait se faire, que c'était les militaires qui allaient l'enclencher.
Ils avaient des groupes de militants armés qui s'appelaient les comités de défense, qui étaient. Alors justement, García Oliver, lui, d'une certaine manière, était très actif dans les comités de défense de Barcelone et il appelait à ce que se constituent des comités équivalents dans les autres villes, les grandes villes espagnoles. Et malheureusement, ça va se produire essentiellement à Barcelone. Enfin, en tout cas, les comités de défense dépendants de la CNT.
C'est le désastre. C'est pour eux, c'est terrifiant parce que. Effectivement, ils avaient prévu la chose, même s'ils avaient du mal à trouver des armes, parce qu'effectivement, les gouvernements républicains, mais jamais, 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 il leur a donné une arme avant le 19 juillet.
Ouais.
Ils préféraient toujours que ça tourne mal plutôt que d'armer les ouvriers. Et surtout, armer la CNTFA, pour eux, mais c'était le pire qui pouvait arriver. Quoi. Donc, c'est des luttes de constantes entre les représentants du Front populaire et les syndicalistes et les anars. Pour exiger des armes. Ils n'ont jamais, jusqu'au dernier moment, les Barcelonais, ils se sont vraiment. Ils ont réussi leur coup parce qu'ils avaient quelques armes, ils ont été très déterminés, très décidés et organisés. Ils ont isolé la troupe qui sortait des casernes, ils les ont laissés circuler dans Barcelone pour qu'ils soient bien déconnectés de leur base. Et une fois qu'ils étaient bien déconnectés, hop, on attaque. On attaque avec ce qu'on a. Et après, on attaque avec ce qu'on en reprend. Et après, on prend un canon. Et après, on prend. Et jusqu'à la fin, où ils prennent. Des centaines de milliers d'armes et de fusils. Là, c'est un peuple en armes à Barcelone. Ce n'est pas qu'une formule de Diego Camacho. C'est vrai. C'est un peuple en armes. Et à Saragosse, ils ont bien dit. Et le peuple, une fois que le peuple sera armé, il ne fera jamais lui enlever ses armes. C'est bien un point fort des motions du congrès de Saragosse. Ce n'est pas ce qui va se passer.
Non, à Saragosse, ça ne va pas marcher.
Non, je veux dire, ce n'est pas ce qui va se passer dans la suite du peuple en armes. On va essayer de leur enlever ses armes. On en parlera. Mais à Saragosse, oui, là, c'est le drame complet. Parce qu'une partie du... Genre, on en parle beaucoup dans le deuxième bouquin qui va paraître. Hein, tout le drame autour de la question de la chute de Saragosse et de sa non-reprise. Il se trouve que le gouverneur civil de Saragosse, qui est un peu copain avec certains militants en art, certains sont francs-maçons, ils ont des liaisons comme ça, leur dit, il n'y a pas de souci, on va, le gouverneur militaire, on le contrôle, les casernes, on les contrôle, on va se débrouiller, on peut éviter les effusions de sang. Et comme effectivement une partie des militants aragonais voulaient aussi éviter les effusions de sang, ils se sont dit peut-être que c'est une carte à jouer et ça va être catastrophique parce que le gouverneur civil, il va se faire attraper et fusiller. Les gouverneurs militaires qui avaient promis qu'il n'y aurait pas d'insurrection, ils se rangent du côté des militaires. Et toute la militance anarche se fait poursuivre immédiatement. Ils échouent complètement là-dessus, mais complètement. Alors c'était le deuxième bastion de l'anarchisme en Espagne. C'est alors qu'à Barcelone, ils avaient déjà réussi l'affaire et ils envoyaient des signaux par la radio. C'est García Oliver qui disait aux militants aragonais, mais sortez dans les rues, ça y est, prenez n'importe quel fusil, sacrifiez-vous comme nous on l'a fait. Parce qu'effectivement, tous les militants anarcho-syndicalistes sont allés se battre sur le terrain direct à Barcelone. C'était pas du flanc, quoi. Donc il leur disait, la grève générale, ça suffit. La grève générale, c'est bien, parce qu'ils avaient proclamé la grève générale, mais ça suffit pas. Alors pendant quelques jours à Saragosse, tu as des militaires qui ont pris les armes. Il y avait, en plus, il y avait un gros arsenal à Saragosse, un très gros arsenal. Et ça, il ne fallait surtout pas le laisser aux militaires. Bon, les militaires prennent l'arsenal, mais ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Ils font des appels des volontaires, il n'y en a pas beaucoup. Ils attendent des Navarrais qui doivent devenir de Navarre. Et pendant quelques jours, effectivement, Saragosse pouvait être reprise normalement. Enfin, on peut toujours se dire ça après coup. Hein. Mais c'est vrai que ceux qui ont étudié la chose ont s'est rendu compte que des militants bien décidés, un peu armés, pouvaient tenter le coup encore. Ou alors les colonnes venant de Barcelone, si elles étaient arrivées à temps, elles pouvaient encore prendre Saragosse. Mais après, il y a les Navarrais qui arrivent. Donc, ils ont des armes, ils ont des hommes. Et là, ça devient beaucoup plus difficile.
Mmh. Et du coup, ce qui fait que... Bon, on ne pourra pas parler, évidemment, de tout le déroulé militaire, de la guerre civile. Ce serait infernal. Mais disons qu'il y a un peu trois espaces pour le suite de notre émission. C'est le front de Saragosse où on va retrouver du coup notre ami Antoine Gimenez et bien d'autres avec toutes les colonnes anarchistes et anarcho-syndicalistes. Il y a les communes aragonaises et il y a évidemment Barcelone. Et du coup, bon, je sais pas par lequel de ces trois espaces, vous voulez commencer, mais on peut peut-être les traiter. Voilà.
Barcelone.
Voilà, allez, on va commencer par Barcelone, du coup.
Oui, parce que c'est à Barcelone qu'il y a un coup de bambou qui tombe discrètement, mais qui fera sa route. C'est que dès le 21 juillet, comme on le sait, les militants anarcho-syndicalistes rencontrent, dès le 20 juillet, ils rencontrent le président de la Généralité, Luis Companys, qui leur dit « Chapeau, vous avez fait tout le... Vous avez réussi. En gros, je suis à votre disposition. Est-ce que vous voulez que je continue là ?» Ou qu'est-ce que... Les autres lui disent « Écoute, tu peux rester à ton poste. On va créer... » Donc, ensemble, ils conviennent de créer le CCMA, le Comité Central des Milices Antifascistes, qui doit organiser donc la vie, le début de vie révolutionnaire à Barcelone. Mais dès le 21, cette décision, contrairement aux pratiques de la CNT, ne part pas à la base pour être discutée, revisitée. Elle est décidée dans un comité restreint. Et elle est accompagnée dans la presse libertaire ou dans les circuits internes de considérations de ce genre-là. Jusqu'où cela nous convient-il de nous lancer dans un essai de communisme libertaire en Catalogne, sans avoir encore fini la guerre et avec les dangers d'une intervention étrangère? Il est décidé de maintenir le bloc antifasciste en donnant la consigne à toute la région. Il ne faut pas proclamer le communisme libertaire. Essayer de maintenir l'hégémonie dans les comités de milices antifascistes et différer toute réalisation totalitaire de nos idées. Voilà, donc ça, dans la rue, tout le monde n'est pas au courant de ça, hein, parce que ça reste encore dans des cercles. C'est rappelé le 26 juillet. Visiblement, ils voient que la militance, les militants intermédiaires sont un peu soufflés, estomaqués, ou qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord pour s'allier avec le président de la Généralité, qui les avait fait chier toutes les années depuis 31, et sa police notamment. Et cette position circonstancialiste, comme on dira après, fut flanquée du slogan « Aujourd'hui, le prolétariat n'a plus de problème, le peuple n'a plus qu'un seul ennemi, le fascisme. Que personne n'aille au-delà. » Ça, c'est dans la presse, hein. Là, ça commence à se savoir. Et au niveau national, le 29 juillet, le représentant du comité régional de Catalogne se fait un peu tenser parce que lui, il disait « Bon, ben d'accord, on va différer le comité libertaire, mais jusqu'à la reprise de Saragosse. Après, on y va. En gros, on aura des places fortes suffisantes, une assise suffisante, nous, les anarchistes, pour impulser ce mouvement-là. » Et le conseil national, lui, pas question. Pas de proposition de ce genre. On suspend le comité libertaire. Donc, la situation est celle-là, au niveau de ce qu'on va appeler les comités directeurs de la CNT de la FAI, à Barcelone et au niveau national. Donc, on maintient l'État à Madrid de fait, parce que l'État est encore assez fort, il est maintenu, il y a pas, les anarchistes ne sont pas majoritaires. Mais à Barcelone, on maintient l'État parce qu'on pense qu'on est assez fort pour le contrôler et l'utiliser. Donc, au niveau de la rue, ce qui se passe, effectivement, la rue, elle a la motion du comité libertaire de mettre en titre à la tête, on fonce, on y va, et il y a, comme tu l'avais déjà dit, il y a des structures de base dans les quartiers pour ça. Ils sont prêts. Des comités de ceci, des comités de cela, de ravitaillement, des comités de défense, des comités de quartier. Tout le monde se met en branle, comme un seul homme, là, pour le coup. Et on organise la nourriture, le ravitaillement, les cantines populaires que tout le monde, personne ne manque de rien. On reloge les gens mal logés dans les maisons des bourgeois qui sont partis de l'autre côté. On organise les premières armes et le transfert des armes et des colonnes. Et des gens qui partent par quartier. Une bande d'amis, et garçons et filles de quartier, dit « Allô, on va à Saragosse, on s'organise, on a réquisitionné un camion, on est allé chercher les armes aux casernes et on fonce. » C'est Concha Pérez, par exemple, qui raconte ça de manière épique dans ses souvenirs. C'est vraiment remarquable. C'est une continuité des bagarres de quartier. Et c'est des gens qui sont groupés, qui se connaissent depuis toujours, qui ont une confiance absolue, qui font tout ce qu'ils ont à faire à Barcelone et qui vont, pour certains, en Aragon. C'est comme ça. L'ambiance, c'est celle-là. Donc, quand il y a des militants qui viennent des comités directeurs voir ce qui se passe dans les quartiers, dans les sections locales, etc., ils disent, il va falloir faire ci. Les autres disent, ouais, vous inquiétez pas, on se débrouille, on sait ce qu'on a à faire, on y va. On a déjà commencé, on ne vous a pas attendu. Donc, expropriation des usines, des ateliers, des bâtiments, etc. Et pour eux, alors, il faut rappeler une chose importante, le terme consacré à l'époque, quand on parle de communisme libertaire et de processus d'expropriation et d'appropriation, c'est la socialisation qui est en route. C'est le terme consacré. Hein. On est dans le terme qui est utilisé au congrès de Saragosse et ailleurs. Or, dans la lignée de ce que j'avais dit tout à l'heure, on va assister à une sorte de mouvement sémantique. C'est un mec, un nouveau arrivé dans la CNT qui s'appelle Fabregas, qui va devenir le conseiller à l'économie et à la généralité de Catalogne, quand les années vont rentrer directement dans le gouvernement, qui signale qu'en septembre 1936, il y a un débat entre, dans ce fameux front antifasciste, entre les communistes à l'époque, le PSOUK, les communistes catalans, le PUM et les libertaires. Et il est discuté de comment on va nommer ce processus d'expropriation et de gestion de la production et des propriétés. Et les marxistes donc, proposent le terme de nationalisation, évidemment. Et les libertaires disent non, nous, socialisation. Et Fabregas dit, bon, finalement, pour arranger tout le monde, on a choisi collectivisation. Mais là, collectivisation, ça n'est pas pour rien. Ça renvoie effectivement à la première version dont on avait parlé au sein de la première option au sein de l'AIT, qui est on va revenir à une option qui maintient le salariat, le salariat n'est même pas, on n'a même pas dit une seconde qu'on va abolir le salariat. La seule chose qui est proclamée, c'est qu'on va travailler 8 heures par jour, on va limiter le temps de travail, on va arranger les conditions de travail vont s'améliorer grandement, plus d'hygiène, etc. Et on abolit surtout le détesté salaire aux pièces. Alors c'est très important. Mais on reste dans les revendications de tout un siècle de bagarres syndicales, etc.
Oui, par exemple, la séparation des entreprises reste la même aussi. Dans le cadre de la collectivisation, les usines, les entreprises restent les mêmes. Il y a uniquement l'organisation du travail qui change, les anciens dirigeants de l'entreprise qui éventuellement soit ont fui ou sont récupérés comme techniciens dans l'entreprise, mais finalement la division du travail reste à peu près la même que celle qui existait avant, dans le cadre de la collectivisation. Alors que dans le cadre d'une socialisation, les anarchistes pouvaient envisager au moins qu'il y ait une réorganisation importante des branches de production, comme ça va se produire dans certains secteurs. Il y a certains secteurs de l'alimentation du lait, le bois, où effectivement il va y avoir un début de socialisation réellement, là où effectivement ils vont aller organiser une branche du bas jusqu'en haut pour contrôler à ce moment-là autant la production que la distribution. Et là, effectivement, ça va aller un peu plus loin que le processus de collectivisation. Et ça va justement gêner le gouvernement de la généralité qui va essayer d'endiguer ce type de mouvement.
Oui, voilà. Pour moi, le mot collectivisation masque qu'en réalité, on est en train d'organiser la nationalisation. L'État reste là. L'État tient les banques. Et les banques, la CNT a toujours appelé à ne pas toucher aux banques. La CNT, pendant les journées de juillet et d'août, a appelé à ne pas toucher aux entreprises étrangères. Comme on sait l'importance du capitalisme étranger en Espagne, en Catalogne, etc. Ça veut dire. Donc celles-là, elles sont sous contrôle ouvrier. Un petit contrôle ouvrier, c'est tout. ne sont pas gérés par les syndicats CNT ou CGT. Hein, parce que la gestion des usines, effectivement, elle est dans les mains des syndicats CNT ou CGT. Mais l'argent, c'est l'argent qui vient dans les banques, et l'argent des banques, c'est l'État qui décide qui va l'octroyer. Donc s'il a envie d'encourager telle branche où les anars sont majoritaires ou pas, c'est lui qui décide. Eh bien, on verra très vite dans les premières semaines et premiers mois que ça va, les problèmes vont se poser au niveau du financement et des matières premières. Ça, à cause de la guerre, mais pas que.
Et voilà. Du coup, il y a une. Du coup, ce qui se passe en Catalogne, enfin à Barcelone, c'est d'une part le maintien de la généralité, qui est une espèce de un peu de conseil régional, puisque c'est assez décentralisé l'Espagne.
C'est le gouvernement local, le gouvernement catalan.
Local. Ouais, c'est le gouvernement catalan.
Et qui a toutes les prérogatives d'un gouvernement à ce moment-là.
Ouais. Oui, donc c'est quand même assez fort du coup.
Oui.
Et du coup, bon, il y a cette acceptation de la généralité qui va un peu plus tard avec le gouvernement de Largo Caballero qui va se transformer, là, une participation même nationale de quatre ministres anarchistes, entre
guillemets.
Oui,
la CND va rentrer au gouvernement de Madrid en novembre.
En novembre 1936, voilà. Avec des ministères assez mineurs où ils vont pas...
La santé, la justice.
L'industrie, quand même, ouais.
Il y a celui de la justice qui est important, ouais, et qui va être confié à Garcia Oliver. Voilà. Ça, c'est un ministère quand même important. Après, il y a le ministère de la Santé qui est confié à Federica Montseny, qui est effectivement un peu plus mineur. Il y a l'industrie à Juan Peiro. Et puis, le commerce, je crois, à Lopez.
Mm. Voilà. Et du coup, d'un autre côté, au niveau plus des rapports sociaux qui sont mis en œuvre à Barcelone, pour le coup, là, on n'observe pas une mise en route du communisme libertaire.
Non, et pire que tout, en octobre, il ne faut pas oublier un truc important. Dès le 24 octobre 1936, il y a des décrets qui sont émis. Hein, parce que le CCMA va se dissoudre. Et donc, il n'y a plus d'instance entre la généralité et la base anarcho-syndicaliste. Il s'autodissout. Et il dit, en gros, on rentre dans la généralité. Maintenant, nous, on est toujours les plus forts. Et d'ailleurs, on n'a pas peur d'entrer au gouvernement parce qu'on contrôle la situation. Et voilà. Donc, et là, on participe au décret. Et décret de collectivisation. Il y a trois décrets qui sont émis. Collectivisation, militarisation et dissolution des comités révolutionnaires. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, la collectivisation, c'est justement le terme qui doit masquer le vrai processus, qui est, on ne peut pas collectiviser les entreprises de moins de 100 ouvriers. On ne peut pas collectiviser les biens, les terres et les entreprises des propriétaires qui n'ont pas fui de l'autre côté. Donc, toutes les autres seront, par conséquent, illégales. Et alors, dissolution des comités ouvriers et reddition des armes. Voilà. Là, tout est dit. C'est plus la rue qui décide. C'est plus la rue qui fait. C'est l'État. L'État, oui, mais les anarchistes sont dans l'État. Donc, ça devrait pas poser de problème. Eh bien, oui, ça va en poser énormément. Là, tout le processus est jugulé.
Ça va très vite, en fait. Ouais.
C'est vite très clair, quoi. Donc, au niveau des conseils, des conseils ouvriers, des éléments de base dans les collectivités industrielles et des ateliers, il y a plein de projets qui commencent à se monter. On va faire ci, on va faire ça, comment organiser la production, la distribution, etc. Tout ça, c'est rangé de côté, ce n'est pas pris. Ils se plaignent. Il faut lire le bouquin de Simple Maura là-dessus, Révolution et contre-révolution en Catalogne. Il détaille bien ce qui se passe en Barcelone. Et là, il le met en évidence tout de suite. Il y a des mecs qui se réunissent à 600 délégués de plein de boîtes industrielles qui disent mais on avait proposé ça, et pourquoi c'est pas pris en compte? Qu'est-ce qui se passe? Après, on dit ah, ben, le gouvernement n'a pas encore filé le fric, etc. Mais on voit que ça.
Oui,
ça élude.
C'est une espèce de nationalisation pour l'économie de guerre,
voilà.
En fait. Et du coup, il n'y a plus aucune transformation sociale.
L'économie de guerre, évidemment, tout est concentré là-dessus. Mais tout le reste est à l'avenant. Tout le reste est à l'avenant. Donc, au niveau de la base, ça commence à gueuler sérieux. Il y en a qui font des libelles, des textes, etc. Ni collectivisation, ni nationalisation. On veut la socialisation. Ils rappellent ce qui était projeté, tout bêtement, en mai 1936.
D'où le livre de Michael Seidman, Ouvrier contre le travail, qui raconte un peu cette résistance.
C'est une mine, ce bouquin, parce que déjà lui aussi, c'est le premier à m'avoir mis sur la piste de cette histoire des différentes approches industrialistes et ruralistes. Il dit justement, on croit que le mouvement anarchiste, c'est un mouvement effectivement espagnol en 36, c'était lui qui s'est, celui qu'on a toujours connu, un peu millénariste, un peu ceci, un peu cela. Non, c'était vraiment un mouvement syndicaliste, très industrialiste, organisé de d'autres façons. C'était pas, on avait changé de mouvement, on n'était pas face à ce qu'on croyait. Et lui, il s'est mis, et lui, comme sa thèse, c'est que on peut pas étudier la socialisation par le travail sans considérer la résistance au travail du monde ouvrier depuis qu'il existe. Il dit on ne peut pas faire autrement. Prétendre que les ouvriers ont toujours aimé travailler, aimé les conditions du salariat que seule la société capitaliste a généralisé, pour lui c'est un bluff. Et la preuve, même dans les mots, puisque son bouquin porte sur les fronts populaires à Paris et à Barcelone en 1936. Donc lui, on a repris soigneusement tout ce qu'il a écrit sur Barcelone. Et effectivement, il a accumulé dans les archives du mouvement syndical, UGT, SNT et patronal, puisque les patrons qui n'étaient pas partis de l'autre côté étaient intégrés dans leur usine, ils restaient là. Il a repris toutes les récriminations des militants de base, des militants qui faisaient des intermédiaires entre les comités directeurs et la base. Et c'est toujours la même. Les gens ne travaillent pas assez, ils ne sont pas motivés, ils sont pas, la productivité baisse, ils réclament des choses, il y en a même qui font grève, ça ne va pas du tout. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un problème. Pour certains, ils l'analyseront parce qu'il y a un problème, parce qu'on voit que le projet révolutionnaire s'étiole, donc il n'y a plus de motivation. Mais pour Seidman, lui, sa thèse, que ça va plus loin. C'est que si un projet révolutionnaire qui propose d'aller retravailler dans les mêmes conditions qu'avant, c'est peut-être pas forcément vécu comme un projet révolutionnaire. Même si la guerre est là, même si les circonstances font qu'il faut continuer à bosser, etc. Il n'empêche que ce qu'il y avait dans la tête de Santillan, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les citations, c'était pas à cause des circonstances de ceci ou de cela. Il faut reprendre la production. Il dissocie le capitalisme du mode de production. La production, c'est bon, on peut y aller, c'est pas un souci. On peut reprendre tout l'appareil des mains de la bourgeoisie, qui d'ailleurs est très défaillante, et nous, on fera mieux qu'elle. Parce que nous, on sait ce que c'est que de travailler.
Et du coup, ce qui fait que il n'y a pas d'une part cette espèce de... Enfin, voilà, vraiment une mise... Vraiment une application de... Enfin, vraiment un Barcelone complètement anarchiste, où les entreprises sont gérées de manière anarchiste. En réalité, elles sont juste presque co-gérées d'une certaine manière, et elles fonctionnent selon les principes du capitalisme. Et du coup, on est plutôt, en fait, finalement, ce qui se passe en mai 1937 à Barcelone, où finalement les anarcho-syndicalistes vont en fait perdre le pouvoir, enfin définitivement, c'est pas un Barcelone révolutionnaire qui tout d'un coup tombe face à une contre-révolution communiste et de l'État républicain. Mais en réalité, les instances centrales les comités directeurs, voilà, de l'anarcho-syndicalisme sont déjà dans une espèce de... Ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce que la base veut, mais d'un autre côté... ils vont être quand même balayés par ceux avec qui ils avaient cherché à plus ou moins collaborer, c'est-à-dire voilà, l'État républicain et les marxistes.
Oui, au niveau de la représentation politique, mais dans les usines, ils restent quand même à la manœuvre. La CNT et l'UGT continuent à gérer les usines jusqu'à la fin. Hein, la CNT est évacuée du
gouvernement.
Ministre.
Ouais.
Comme son pouvoir, effectivement, sa puissance se détériore, effectivement, le rapport de force n'est pas en sa faveur, ça c'est sûr. Mais le rapport de force que les contre-révolutionnaires exercent à Barcelone, c'est surtout contre la base de la CNT. La CNT en elle-même, ça va, ils voient que ça se passe bien avec eux, il n'y a pas de gros soucis. Mais au niveau de la base, donc, par exemple, ça se voit à plusieurs niveaux. J'ai vu quelques bouquins sur les conditions de travail dans certaines usines à Barcelone. Et tu vois des militants, hein, des militants dévoués qui ont fait la navette entre les comités directeurs et la base dans les usines, etc., pour transmettre les nouvelles directives. Bon, pas comité libertaire tout de suite, mais il faut voir, attends, peut-être. Et ils voient que ça coince. Et eux, ils se font broyer entre les deux. Parce qu'ils sont, par discipline révolutionnaire, responsabilité militante, comme on disait à l'époque, ils relaient les dispositions de comité directeur, et ils voient qu'au niveau de la base, ils se font jeter. Mais jeter. Il y a des gens qui se foutent de leur gueule, qui leur disent « Mais ça va, c'est ça que tu nous proposes, ça ne nous intéresse pas, enfin, il y a des conflits. » Et il y a plusieurs... J'ai vu quelques situations où des mecs, des militants, ont dit, ils ont jeté l'éponge. En plus, ils étaient pas à l'aise. Parce que ça, là, eux aussi se posaient des questions. Donc, il y a des endroits où... alors, d'une part, en plus, tu as cette situation... Et puis, tu as de temps en temps des rappels sous cette forme-là, le fameux Peyrot, toujours le même, qui avertit les ouvriers dans la Soli en août 36. Ceux qui croient que le temps est venu de satisfaire les vieilles revendications prolétariennes se trompent. Parce que même 8 heures par jour, etc., il dit c'est pas le moment. Il ne faut pas jouer à ça. C'est pas le moment. Même ça, pour lui, c'est trop. Quelques jours après, dans le même journal, il dit les travailleurs devront travailler avec la plus grande intensité. Et plus d'heures si besoin, puisque c'est la seule manière rationnelle de réduire le coût de production. Ça, c'est un grand classique. La mesure sera identique dans toutes les industries, et surtout celles où la matière première est importée. Je sais bien que cela choquera beaucoup de travailleurs, surtout ceux qui travaillent pour le compte du capitalisme. Non, il n'est pas mort. Mais l'économie générale concerne de la même manière les capitalistes et les prolétaires. Donc on les voit dans une phase de transition... où on n'a pas bouleversé les rapports sociaux capitalistes fondamentaux, et il faut l'accepter et même plus le contester.
Oui, on est encore dans une situation un peu de mélange entre un capitalisme privé et un capitalisme d'État, parce qu'il faut savoir que les usines qui sont collectivisées, les salaires sont payés par la généralité, donc c'est bien effectivement un processus de nationalisation, donc vraiment véritablement quelque chose qui correspond au capitalisme d'État.
Et en octobre, le même Peyrot, dans un discours à Barcelone, prêchera à l'avance pour l'instauration, je cite, d'un régime de transition après la guerre. Ce qu'il pense après la guerre. Qu'importe de transiger, si transiger aujourd'hui est le meilleur moyen de triompher. Donc il est... Je dis, en plus, c'est des questions qui étaient déjà débattues avant 36, ça. Hein. Si on garde quand même un régime de transition, etc., c'était pas exclu par certains secteurs de la CNT. Lui, il le rappelle.
Et du coup, on trouvera pas mal de précisions sur toutes ces questions dans des articles qui sont sur jiménologue.org, l'anticapitalisme
oui,
des anarchistes.
Oui, le gros article voilà. Qui était paru dans Sortir de l'économie, que nous avons repris et un petit peu réactualisé et remis sur notre site actuellement. Pour la situation à Barcelone, ouais. On a tous ces éléments-là, oui.
Après, on pourra envoyer au livre d'Agustín Guillamón aussi. Il y a plusieurs livres d'Agustín Guillamón qui ont été traduits en français, qui ont été édités chez Spartacus, je crois essentiellement, et qui sont très intéressants, très instructifs. Ce n'est pas toujours très, très bien construit, mais en tout cas, il y a beaucoup de matériaux bruts. Hein. Il a étudié énormément d'actes, de réunions, des groupes anarchistes, des fédérations locales, des syndicats. Enfin bon, il a dépouillé énormément de choses. Et il a mis vraiment en lumière beaucoup de mécanismes qui n'étaient pas apparents, quoi, avant que vraiment qu'il s'attaque à tout ça. Et par exemple, c'est très intéressant sur ce qui s'est passé réellement en mai 1937, quoi. Quels étaient les enjeux véritables, c'est très intéressant. Et ça permet de comprendre que l'activité du pouvoir à ce moment-là vise non pas véritablement à détruire la CNT, parce qu'en fait elle est quand même, justement comme Myrtille le disait, c'est encore elle qui a la haute main sur la production, donc il faut quand même pouvoir compter encore sur sa collaboration. Mais il faut en fait la couper en deux. Et il faut garder une CNT fréquentable, gestionnaire, prête à collaborer avec le capitalisme, et une CNT plus ou moins de la base, mais bon, pas systématiquement de la base, qui reste encore attachée à des positions révolutionnaires. Et qui va se retrouver d'une certaine manière en relation directe avec les comités de défense. Les comités de défense, dans une large mesure, vont rester assez proches de la base, assez proches des comités de quartier, assez proche de l'idée de révolution. Et ce qu'on appelait les hommes de juillet, en fait. Hein, c'était les hommes de la révolution de juillet, du 19 juillet. En fait, ces gens-là, ils restent encore présents, ils restent encore puissants, ils restent encore organisés. Et les journées de mai 37 vont viser à casser les reins de ce mouvement-là. Et il faudra attendre la prise du couvent des Escolapios, où il y avait le comité de défense centrale de Barcelone, en septembre 1937, pour que véritablement mai 37 soit terminé.
Ouais. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le mouvement de contre-révolutionnaire de mai 37 est dirigé contre la base de la CNT. Il fallait vraiment que... Je trouvais que la CNT mettait du temps à la contrôler, à la maîtriser, qu'elle n'y arrivait pas vraiment. Et là, ça va créer une situation explosive, quoi. Explosive. Et au point qu'on arrive à un des représentants de la CNT à Barcelone qui dit au printemps 37, nos pires ennemis sont les quartiers. Il faut entendre un truc pareil. Ça, on l'a vu dans les comptes rendus de réunions internes de la CNT. Pour en arriver là, ça veut dire que vraiment, et comme Oumoussen qui disait après-guerre, on gouvernait, on était au gouvernement, on a été tout puissant, mais la base ne nous suivait pas. La rue ne nous suivait pas.
Donc une partie de la CNT se transforme en une espèce d'instance de co-gestion qui sert voilà, de caution dans le gouvernement. Et puis aussi
elle veut absolument être au plus près du pouvoir, de la représentation classique politique du pouvoir. Elle y tient, quoi, absolument.
Ouais, ce qui montre
alors que Peyrat disait, mais nous avons 200 000 mecs armés à Barcelone en juillet 1936, on restait en dehors de l'État, même si l'État n'était pas complètement dissous, mais on le finissait comme ça. Mmh. On représentait un pouvoir extraordinaire. On lançait ce qu'on avait à faire et on restait en dehors de cet État. On n'avait pas besoin d'entrer là-dedans.
Mmh. Et du coup, on va, sauf si vous avez une ou deux choses à rajouter, on va faire une petite pause musicale avant de partir justement sur un autre espace, sur celui éventuellement de l'Aragon, avant de parler éventuellement de celui du front, des milices, etc. etc.
Oui, bon, on peut finir juste sur le propos d'un jeune libertaire qui s'appelle Santana Calero. Le 12 avril 1937, il est en train de faire un petit bilan et dans les groupes libertaires, il y a beaucoup de discussions. Là, ils sont tous atterrés, quoi. Ils sont en train de... Parce que pour eux, le drame, c'est profond. La CNT, c'est tout. C'est, comme on l'a dit, c'est un endroit de lutte sur tous les aspects de la vie. Ils ont tout fondé là-dessus. Ils ont confiance aveugle dans les militants, les leaders, entre guillemets, naturels. Et ces gens-là, ils ont fait leurs preuves, ils ont morflé, ils ont été torturés dans les commissariats, ils se sont bagarrés, ils sont tombés sur, en juillet 1936. C'est des gens, ils ont une confiance absolue. Ces gens-là changent d'option. Ça les travaille. Ils se disent, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pour momentané et qu'on va se reprendre. Et puis, en avril 1937, ils disent, non, voilà, ça ne va plus. Alors là, entre eux, ils discutent, ils font circuler des textes et Santana Calero, il dit... La contre-révolution a progressé malgré notre collaboration au gouvernement. Cela démontre que cette dernière est contre-productive et inefficace. Un autre, dans le même débat, proposa d'engager la socialisation totale de l'industrie, du commerce et de l'agriculture. Sans cela, nous perdrons la guerre. On ne peut faire la révolution sans s'affronter au capitalisme, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. Donc il rappelle les fondamentaux et il disait en plus, on a bien voulu voir... Ils nous ont dit là-haut, ceux à qui on avait confiance, qu'il fallait passer par là. Ben non, c'est contre-productif, la contre-révolution progresse. Nous, on va être laminés. Les gens ne font plus confiance en nous dans la rue. Ils disent bien, hein. Nous, tous les gens dans les quartiers et tout, ils nous disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites? Ça va plus, quoi. Ils s'éloignent de nous. Ils disent, on va se retrouver tout seul. Tout le monde puissant qu'on a été, il est en train de s'effriter complètement. Non, c'est un drame absolu. Parce qu'en plus, ces gens-là, ils ne veulent pas quitter la CNT. Il n'y a pas où aller ailleurs. Il n'y a pas ailleurs, d'ailleurs. C'est ça, le mouvement. L'organisation, c'est celle-là. Et donc, il y en a qui ont dit, ouais, mais la base, elle a bien suivi les leaders. Elle avait qu'à se soulever. Mais ils se sont soulevés, mai 37, de fait. Quand la contre-révolution classique montre son nez, hop, tous les quartiers se soulèvent, comme un seul homme. La CNT, c'est la CNT qui le calme.
Ouais.
Donc, à la base, elle a fait ce qu'elle a pu. Mais alors, ça voulait dire affronter la CNT. Ça veut dire tirer sur Garcia Oliver et les autres qui appelaient au micro à embrasser les gardes d'assaut, parce que ce sont des camarades comme nous, etc., qui leur tiraient dessus.
D'accord. Et du coup, ça va être un coup porté au mouvement, au à moral, la base, à Barcelone.
Et après mai 37, là, ils ne se remettent pas. C'est la dernière insurrection des quartiers, des comités de quartier, des comités révolutionnaires.
Et du coup ça, c'était un peu presque morose, va continuer jusqu'à février 39, c'est ça, voilà. C'est le moment où Barcelone...
Où Barcelone tombe comme Barcelone un frimur sans combattre.
C'est ça. Et du coup, beaucoup vont s'exiler en France et beaucoup
les
vont y rester.
Les survivants,
ouais. Ouais. Voilà. Et ben donc, on va faire une pause musicale avant de parler de l'Aragon.
La garde d'assaut marche, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. La garde d'assaut marche, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. Au centre téléphonique, ay, Carmela, ay, Carmela. Au centre téléphonique, ay, Carmela, ay, Carmela. Défi aux prolétaires, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. Défi aux prolétaires, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. Provocation stalinienne, ay, Carmela. Ay Carmela, provocation stalinienne. Ay Carmela, ay Carmela. On ne peut laisser faire, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. On ne peut laisser faire, boum, bada, boum, bada, boum, bam, bam. Le sang coule dans la ville, ay Carmela, ay Carmela. Poumé faille sénette, boum bada boum bada boum bam bam. Poumé faille sénette, boum bada boum bam bam. Ave seul prix Barcelone, ay Carmela, ay Carmela. Ave seul prix Barcelone, ay Carmela, ay Carmela. La République s'arme, boum bada boum bada boum bam bam. La République s'arme, boum, bada boum, bada boum, bam bam. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela, ay Carmela. Mais d'abord contre nous autres, ay Carmela, ay Carmela. À Valence et à Moscou, boum, bada boum, bam bam. À Valence et à Moscou, boum, bada boum, bam bam. Le même ordre nous condamne, ay Carmela, ay Carmela. Le même ordre. Ay Carmela, ay Carmela. Ils ont juré d'abattre, boum, bada boum, bada boum, bam bam. Ils ont juré d'abattre, boum, bada boum, bada boum, bam bam. L'autonomie ouvrière, ay Carmela, ay Carmela. L'autonomie ouvrière, ay Carmela. Pour la lutte finale, boum bada boum bada boum bam bam. Pour la lutte finale, boum bada boum bada boum bam bam. Que le front d'Aragon vienne, ay Carmela, ay Carmela. Que le front d'Aragon vienne, ay Carmela, ay Carmela. Camarade ministre, boum bada boum bada boum bam bam. Camarade ministre, boum bada boum bada boum bam bam. Dernière heure pour comprendre, ay Carmela, ay Carmela. Dernière heure pour comprendre, ay Carmela, ay Carmela. Honte à ceux qui choisissent, boum bada boum bada boum bam bam. Honte à ceux qui choisissent, boum bada boum bada boum bam bam. L'aliénation étatique, ay Carmela, ay Carmela.